Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde. 5e épisode, Easy Rider de Dennis Hopper. Avec Mathieu Orléans et Baptiste Villeneuve. To be wild, né pour être sauvage ou libre, en tout cas, c'est le générique de début d'Easy Rider, premier film de Dennis Hopper en 1969, sur leur Harley Davidson customisé en choppers avec leur longue fourche Wyatt, dit Captain America, et Billy franchissent la Colorado River et entrent en Arizona, mais ce n'est pas le tout début du film. Auparavant, un très fructueux deal de cocaïne avec un consommateur joué par le génie de la production musicale et futur meurtrier Phil Spector, venu sur le tournage et dans le film avec sa Rolls et son garde du corps. Ce deal les a enrichis, c'est du easy money avant Easy Rider, de l'argent facile, ça leur a donné de quoi prendre leur retraite à l'autre bout du pays, en Floride. Billy, avec sa veste en daim à franges, son collier de dents, ses cheveux longs et sa moustache en guidon, c'est Dennis Hopper. Baptiste Villeneuve, vous avez publié auprès Presse universitaire de Rennes, un livre issu de votre thèse en études cinématographiques, Le Nouvel Hollywood 1967-1980, une réinvention du point de vue où évidemment Easy Rider occupe une large part. On verra vite pourquoi. Qui est Dennis Hopper, Baptiste Villeneuve, quand il réalise Easy Rider ?
Donc Easy Rider, c'est effectivement son premier film en tant que réalisateur, mais Dennis Hopper a commencé essentiellement en tant qu'acteur. Au milieu des années 50, en particulier dans deux films importants, La Fureur de Vivre et ensuite Giant, Géant, donc le premier de Nicolas Ray en 1955, le deuxième de George Stevens en 1956. Et dans ces deux films, il a eu l'occasion de tourner aux côtés de James Dean, pour lequel il a une profonde admiration, avec lequel il va se lier très très vite d'amitié. Il va être extrêmement affecté par sa mort accidentelle quelques semaines après la fin du tournage de Géant. Et après cela, il va connaître une carrière un peu en dents de scie en tant qu'acteur, parce qu'il va se quereller assez violemment avec un réalisateur expérimenté du cinéma hollywoodien classique, et Henry Hathaway, en 1958. Sur le tournage, ils ont une violente mésentente parce que Dennis Hopper est un acteur assez imprévisible. De toute façon, c'est un personnage très imprévisible, qui a un comportement un petit peu insolent, qui arrive très souvent à alcoolisé ou défoncé sur les plateaux de tournage. Et donc, pendant une dizaine d'années, il va être quasiment blacklisté de Hollywood. Et finalement, il va faire son retour en tant qu'acteur par le biais d'un détour, c'est-à-dire qu'il va essentiellement revenir vers la fin des années 60 par le biais de films d'exploitation qui sont pour la plupart, enfin même pour ils sont tous produits et pour la plupart réalisés par Roger Corman, qui est un personnage vraiment important, et produit par une structure qui s'appelle American International Picture, AIP, et à travers deux films en particulier, The Trip en 1967, dont on reparlera certainement, et La Guerre des Anges en 1968, qui est un film de motards, un film de bikers. Il va faire son retour, il va être de nouveau repéré, et ensuite c'est ce qui va lui permettre justement d'avoir les contacts pour réussir à produire et à réaliser le film Easy Rider, qui deviendra, on le sait, par la suite un film culte.
Alors Denis Hopper n'est pas que comédien. Mathieu Orléans, vous avez été le commissaire de la formidable exposition Denis Hopper et le Nouvel Hollywood, c'était à la Cinémathèque française en 2008, je me souviens encore avec émotion de la visite commentée par Denis Hopper lui-même, qu'on avait enregistré à l'époque pour Tout Arrive. Denis Hopper n'a pas encore réalisé de film quand on lui confie la réalisation de Easy Rider, mais il a déjà un solide regard et une pratique artistique en dehors de sa carrière déjà des plus chaotiques, on vient de le dire, de comédien, Mathieu Orléans.
Alors, c'est vraiment le personnage absolument atypique à Hollywood d'être à ce point multitalent. Ça a été effectivement un grand acteur, un futur réalisateur, on en parlera tout à l'heure, mais aussi un photographe, un artiste, un collectionneur. Et c'est effectivement en 2009 à la Cinémathèque un peu tous ces aspects-là qu'on avait envie de traiter, de montrer ensemble. C'était la première fois qu'on pouvait orchestrer dans un même espace la plupart de ces créations, montrant évidemment qu'elles étaient toutes connectées les unes aux autres, qu'elles avaient des échos, qu'elle dialoguait. Et effectivement, pour être un peu plus précis, dire que dès les années 50, au moment où il suit des cours de théâtre, il va avoir une rencontre assez décisive avec l'acteur Vincent Price, qui lui donne la réplique sur scène et qui est un collectionneur. Et donc, Denis Hopper va être amené à découvrir cette collection absolument magnifique, qui est surtout une collection d'art américain, d'art expressionniste abstrait. Et c'est quelque chose qui va évidemment lui rentrer dans l'œil. Et tout ça va s'approfondir des années après, enfin pas tellement longtemps après, mais à partir du moment où, dans le milieu des années 50, il va souvent à Los Angeles. À l'époque, il est encore résident à San Diego. Il va à Los Angeles de plus en plus souvent. Et cette ville qui était longtemps une ville très provinciale, où peu de choses se passaient par rapport à la côte Est, va en fait se doter de nouvelles structures artistiques, des galeries, des musées, et voilà, auxquelles va se rendre de nombreuses fois Denis Hopper, qui va vraiment commencer à fréquenter ce monde-là, en particulier une galerie qui est assez connue, qui s'appelle la Galerie Ferrus, la Ferrus Gallery, qui a été créée par à la fois un conservateur d'art, mais aussi par un artiste, donc qui était un lieu totalement atypique par rapport à ce qui pouvait se passer à l'époque, qui a été créé en 1957, au cœur de West Hollywood, à Los Angeles, et qui a été une galerie qui a montré à la fois l'art de la côte ouest, par exemple le jeune Ed Rochet avant qu'il ne soit célèbre, et aussi l'art pop américain de la côte est, par exemple c'est là où il y aura dans les années 60 la première expo solo de Warhol avant même que ça soit à New York. Et donc c'est un lieu sur lequel va se rendre très souvent Denis Hopper, et qui va effectivement aiguiser son regard, son œil. Et c'est vrai que c'est le moment où il va commencer à pratiquer de plus en plus la photographie. Il y a un petit peu un jeu comme ça entre le fait qu'il ait disparu de temps en temps des écrans à cause de cette querelle avec Hathaway. Ça a été aussi l'occasion pour lui de se former d'autant plus à la photographie, de la pratiquer, de circuler dans le pays et d'être publié assez vite dans des revues comme Art Forum ou Harper Bazaar, par exemple.
Alors, ce regard photographique de Denis Hopper est repéré par quelqu'un qu'il va rencontrer dans ces années-là, qui est très important pour Easy Rider, c'est Peter Fonda. Peter Fonda, c'est celui qui joue l'autre biker, Wyatt, Captain America. Alors, évidemment, avec le succès du film, il y a eu beaucoup de querelles de paternité de l'idée d'origine. Il semble tout de même que l'idée au départ soit de Peter Fonda. Il a tourné pour Roger Corman avant même de faire The Trip, dans lequel joue Denis Hopper et Peter Fonda, un film de motard, comme il en tourne beaucoup à l'époque, qui s'appelle Les Anges Sauvages. Et il semble que ce soit à partir de cette expérience, et notamment d'une photo d'exploitation du film, que Peter Fonda a l'idée d'un film qui ne s'appelle pas encore Easy Rider, qui s'appelle The Loners. Baptiste Vidal.
Oui, absolument. Selon l'anecdote, alors qui est rapportée justement par, notamment par Peter Biskind,
l'auteur du livre sur le nouvel Hollywood, qui a beaucoup marqué au début des années 2000.
Absolument. Apparemment, donc, c'est en voyant une photo de tournage sur laquelle Peter Fonda apparaît aux côtés de Bruce Dern, qui est un des acteurs principaux justement des Anges Sauvages, film réalisé en 1966, toujours par Roger Corman et dans le cadre d'American International Picture, qui sont des films d'exploitation à petit budget, voire à très petit budget, mais qui est un film qui s'inscrit vraiment dans l'actualité, au sens où il fait écho à une certaine jeunesse américaine de l'époque qui va se rendre en masse dans les drive-in pour voir des films qui leur parlent, qui leur disent quelque chose de la société de l'époque. Et évidemment, ils se retrouvent dans ces films de motards, dans ces bikers films, qui montrent justement une certaine jeunesse rebelle, en rébellion contre la génération de leurs parents, qui se regroupent en bandes, en gangs, gangs qui vont parfois s'affronter les uns aux autres. Et c'est effectivement Les Anges Sauvages, ça fait partie de ces films qui vont, je dirais, créer cette galaxie Roger Corman. On a parfois parlé de l'écurie Roger Corman, puisque des personnages très importants ensuite dans le cadre du Nouvel Hollywood, comme Peter Bogdanovich, comme Monty Hellman, évidemment Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson,
Coppola aussi,
Francis Ford Coppola évidemment, font partie de cette galaxie-là. Et sur ces petits films d'exploitation, ils vont parfois passer par différents postes en fait, ce qui va leur permettre d'acquérir une véritable expérience, de faire leurs armes, et dans un système, je dirais, qui leur laisse beaucoup plus de liberté que le système contraignant des grands studios hollywoodiens, des majors.
Voilà, parce qu'il faut spécifier, Mathieu Orléans, préciser où en sont les studios à l'époque. Le studio, le système de production classique hollywoodien est un peu à bout de souffle. Et c'est troisième larron de notre aventure, après Dennis Hopper et Peter Fonda, un personnage très important qui est Bert Schneider, futur grand producteur du Nouvel Hollywood, Bob Rafelson, Terrence Malick et autres, qui entrent en scène à ce moment-là.
Oui, effectivement, Bert Schneider, il est quand même un petit peu du sérail. D'ailleurs, comme Dennis Hopper, ce sont des gens qui ont à la fois une forme de marginalité, mais sont par des liens familiaux quand même connectés à tout ce monde du cinéma, puisque Dennis Hopper est marié à l'époque avec Brooke Hayward, qui est une actrice, fille d'un grand producteur hollywoodien, de la même manière que Bert Schneider est le fils du président de la Columbia. Donc c'est quand même des gens qui ont une certaine forme d'influence à Hollywood, qui connaissent le système, mais qui vont s'en démarquer pour imprimer de manière assez personnelle une autre façon de travailler. Et Bert Schneider, effectivement, est un jeune producteur à l'époque, associé avec le cinéaste Bob Rafelson, dont on vient de parler. Et ils ont créé cette société de production, Ray Bert Production, qui est donc une petite structure de production, et qui va effectivement permettre cet écrin de faire ce film avec très peu d'argent. On dit qu'il a parfois touché, qu'il a coûté 400 000
même
dollars.
Même pas. 360 000 avant de payer les droits musicaux, ça, on y reviendra.
Voilà. Et effectivement, tout ça dans une économie extrêmement fragile. Il faut dire qu'ils ont misé sur Dennis Hopper, qui n'a encore rien réalisé, si ce n'est des scènes au sein effectivement de AIP pour Roger Corman. Il a souvent raconté qu'une fameuse scène de trip sous acide dans le film justement intitulé The Trip a été tournée par lui, que Roger Corman avait cette volonté souvent d'émanciper les acteurs ou les gens qui étaient autour de lui, de leur donner tout d'un coup le pouvoir, de les faire comme ça sortir de là où ils sont, de leurs ornières, pour expérimenter des nouvelles façons de travailler. Il leur a donné une caméra et il l'a comme ça un peu poussé. Et évidemment, c'était un désir assez ancien. Dennis Hopper m'avait raconté dans l'entretien que j'avais fait avec lui que même déjà sur le tournage de La Fureur de Vivre, il était très intrigué par la manière dont Nicolas Ray pouvait poser la caméra ici ou là et se poser des questions déjà de mise en scène en tant qu'acteur. Mais c'est vraiment avec effectivement cette petite scène sur le tournage du film The Trip signé de Roger Corman que malgré tout il a réussi à tourner de manière autonome une séquence. Mais c'est vrai qu'Easy Rider est son premier film totalement comme cinéaste, fait effectivement avec très peu d'argent. Ils ont commencé par tourner cette scène assez célèbre qui est la scène également de Trip. Ça devait pas le changer cette fois sous LSD dans le cimetière.
On va y revenir plus particulièrement tout à l'heure. C'est vrai que d'abord on leur donne un peu d'argent pour aller tourner à la Nouvelle-Orléans. Et ça encore, on va voir un peu tout à l'heure comment ça s'est passé. Si vous voulez bien, on va retrouver nos deux bikers sur la route. Ils font des haltes régulièrement. La première, la voici, elle n'est pas anodine.
D'où est-ce que vous venez?
Elle a.
Elle a.
Los Angeles.
Los Angeles? Vraiment? Quand j'étais jeune homme, je voulais aller en Californie. Mais Enfin, vous savez ce que c'est.
Vous avez vu grand, vous?
Oui, j'en ai une tripotée. Ma femme est catholique, alors. Chérie, on peut avoir du café?
Sans blague, c'est bien votre ferme. Tous les gars peuvent pas réussir à vivre de la terre, vous savez. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. C'est ça, être libre.
I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing, and run across the valley beneath the sacred mountain, and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. When it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another.
On verra par la suite les confrontations de nos deux anti-héros avec l'Amérique traditionnelle vont de moins en moins bien se passer, mais pour l'instant tout va bien et Wyatt en particulier n'a qu'admiration pour le mode de vie très esprit pionnier du patron de ranch qui leur a offert l'hospitalité. Alors on vient de le dire, tous les personnages qui sont autour de qui fabriquent ce film sont des rebelles à l'intérieur du système, et c'est presque ça que met en scène cette partie. C'est un film qui dialogue sans arrêt entre classicisme et innovation formelle, et entre tradition et révolte, Baptiste Villeneuve.
Oui, absolument. Il y a un plan qui, de ce point de vue-là, est extrêmement symbolique, juste avant la scène que vous venez de diffuser, où on voit justement les deux motards s'arrêter près de cette ferme et demander à ce qu'on mette à leur disposition une grange pour qu'ils puissent changer le pneu d'une des motos qui est crevée. Et on va avoir un plan extrêmement symbolique où, au premier plan, bord cadre gauche, on va voir justement deux hommes en train de ferrer un cheval, de s'occuper du cheval, alors que dans le même temps, sur la droite, dans la profondeur de champ, on voit les deux personnages incarnés par Dennis Hopper et par Peter Fonda en train de changer la roue, ce qui permet dans le même cadre d'opposer en même temps, de mettre en parallèle les deux actions, de montrer qu'il y a à la fois une forme de rupture, c'est-à-dire qu'on passe du véhicule désuet, le cheval, qui renvoie évidemment à l'imaginaire du western, je vais y revenir, qui est mise en opposition avec la moto rutilante qui renvoie à ce genre nouveau aussi qu'inaugure Easy Rider, qui est le road movie. Et en même temps, au-delà de cette opposition, les deux scènes sont mises en parallèle à l'intérieur du même cadre, comme pour souligner qu'il y a une forme de continuité. Et effectivement, le road movie arrive un petit peu dans la continuité du western classique, mais va en quelque sorte le retourner, je dirais. On sait que dans Easy Rider, le trajet qui est effectuent les deux motards est à rebours du trajet traditionnel, classique de la conquête de l'Ouest, de l'avancée et l'avancée de la frontière vers l'Ouest, comme pour montrer en quelque sorte ce qui se cache de manière sous-jacente et qu'on n'a pas voulu montrer jusque-là dans ce processus soi-disant civilisationnel, enfin qui permettait d'apporter la civilisation sur ces terres sauvages, c'est-à-dire la violence qui est sous-jacente. Et là, justement, plus les personnages vont aller vers l'Est, vont arriver vers la Louisiane, et effectivement, plus ils vont être confrontés à cette violence sourde de l'Amérique profonde, celle justement des rednecks, des hillbillies, de ces bouseux, entre guillemets, du sud profond américain, qui vont finir par les tuer et par mettre fin, en quelque sorte, au rêve hippie, à l'idéal hippie.
Mais ce trajet, Mathieu Orléans, est aussi un trajet cinématographique. Vous avez mentionné cette séquence à la Nouvelle-Orléans, qui est très étonnante. Alors, elle a été tournée avant même le début du tournage de Easy Rider, avec des petits moyens, avec une caméra 16 mm. Mais c'est comme si on partait du classicisme hollywoodien. D'ailleurs, cette scène, c'est un des rares où on a un acteur classique hollywoodien, qui est Warren Finnerty, qui joue le rôle du patron. Et quand on arrive dans ces séquences à la Nouvelle-Orléans, on est quasiment dans la nouvelle vague. Tournage à l'arrache, au milieu des gens qui manifestement regardent la caméra, alors qu'on a les personnages du film au milieu. C'est un moment très étonnant, ce trajet qui va presque du classicisme à la modernité.
Oui, c'est une scène vraiment très importante du film. Dans le film, elle arrive presque à la fin du film, pas tout à fait à la fin. Mais effectivement, comme vous dites, elle a été tournée au début. Ça a été presque une manière, un petit peu pour les producteurs, de tester Denis Hopper sur sa capacité à faire le film comme c'était le premier, de lui donner cette caméra 16 mm, qui était plus simple à manipuler qu'une caméra 35 mm. Et c'est vrai que ce sont des plans qui sont absolument hallucinés, presque abstraits, flous, surexposés. Le montage joue beaucoup. Bon, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à être monté, plus d'un an de montage d'après Denis Hopper, donc c'est vrai que beaucoup dans cette séquence provient aussi du choc des scènes les unes avec les autres, de faux raccords, d'impressions effectivement de fish-eye ou de temporalité qui est en train de disjoncter. Et c'est une scène très importante visuellement dans le film. On voit là aussi l'influence chez Denis Hopper de tout un monde du cinéma expérimental qu'il a connu, à la fois comme spectateur mais aussi comme acteur. Je crois que effectivement, s'il a longtemps été un peu un second couteau du cinéma dans les années 50-60, ceux qui l'ont le mieux compris à cette époque-là, je pense que c'est certains cinéastes expérimentaux qu'il a su magnétiser avant les autres, que ce soit Curtis Harrington avec Night Tide, que ce soit même Andy Warhol, que ce soit Bruce Conner. Donc des cinéastes de la marge qui, à mon avis, ont le mieux retranscrit cette dualité qu'il avait, cette fragilité, cette folie dans des films pas très connus, mais dans des films malgré tout qui existent de cette période avant Easy Rider. Et je pense que c'est une façon, dans cette séquence-là, de rendre hommage aussi à ceux qu'il avait vus avant les autres, avant qu'ils deviennent la star qu'on connaît dans les années 80, filmée là par les grands cinéastes Coppola, Wenders, Lynch. Je pense qu'il y a eu une première période de ces films un peu rares, de ces films un peu très expérimentaux, dans lequel il incarne une sorte de beauté un peu satanique, une beauté obscure, on va dire, fascinante. Et je crois que c'est un peu un hommage à tous ces gens-là qu'on va retrouver dans cette séquence de trip sous LSD à la Nouvelle-Orléans, avec Peter Fonda, avec Karen Black, qui joue, c'est un de ses premiers rôles, qui va devenir la grande actrice qu'on sait, en particulier Complot de famille, Favies et Pieces, et Tony Basile, qui était une danseuse, qui aussi montre le goût qu'avait Denis Hopper pour aller chercher des figures qui n'étaient pas simplement des acteurs du cinéma, mais aussi des non-professionnels, des danseurs, des performeurs. C'est une scène importante dont il raconte après coup aussi que c'est une façon de régler ses comptes avec les anciens, avec le classicisme, et que, alors à la fois formellement, on l'a dit, mais aussi dans certains mots, dans certaines intentions, ça c'est lui qui le racontait quand je l'avais interviewé, je me souviens que Peter Fonda avait eu une sorte de bad trip pendant le film, et qu'il avait vu son père, et que finalement tout ce qu'il dit, on l'entend pas très bien, mais à un moment donné, il dit qu'il le déteste, sans préciser de qui il parle, et que ça serait peut-être le grand acteur Henry Fonda qui serait derrière cette figure mal aimée, que à la fois le personnage et l'acteur, tout se mélange un petit peu dans cette séquence. Peter Fonda se met effectivement à haïr et à insulter. C'est intéressant et assez amusant de dire que Henry Fonda avait joué lui-même un Wyatt Earp dans une version du cinéma classique, et c'est comme si son fils avait pris sa place et essayé de le tuer ou de le détruire à l'intérieur de cette séquence explosive sous drogue, quoi.
Le western classique, Henry Fonda et donc John Ford, le film s'y confronte quand même beaucoup.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot. Just grinned and shook my hand. No was all he said.
the load right on me. I picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on me.
C'est une des scènes les plus emblématiques du film dans sa confrontation au mythe à la fois de l'Amérique et du cinéma américain, ce qui est sans doute la même chose. Qu'est-ce qu'on voit dans cette scène, Baptiste Villeneuve, sur cette chanson des Byrds, The Weight, le poids?
Eh bien, en fait, les deux protagonistes, Billy et Wyatt, ont pris en autostop un hippie, un jeune hippie, qui leur propose par la suite ensuite de passer une journée dans la communauté à laquelle il appartient. Et donc sur le trajet, en fait, ils vont le soir, au moment du crépuscule, au moment où le soleil se couche, traverser ce paysage absolument mythique du cinéma américain qui est Monument Valley, sur lequel, on le sait, John Ford notamment a tourné à l'époque classique des scènes absolument mémorables du western hollywoodien classique. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça, le choix en fait du crépuscule est intéressant. C'est-à-dire
c'est
que
un western crépusculaire.
C'est voilà. Un western crépusculaire, effectivement, assez désespéré de bout en bout et surtout évidemment vers la fin du film, qui insiste beaucoup sur le désenchantement de cette génération hippie qui avait des rêves de progressisme, d'avancée sociétale, qui viennent finalement se heurter et même violemment se heurter à la réalité des États-Unis. Et effectivement, bah, on a l'impression que encore une fois, le road movie en tant que genre cinématographique vient prendre le relais du western, dont c'est le crépuscule précisément. On pourrait le voir de cette manière-là, un peu métaphorique cette scène-là. Et finalement, ce trajet du road movie, c'est aussi pas seulement une traversée géographique des États-Unis, mais c'est aussi et surtout, je dirais, un voyage intérieur, un voyage mental, une manière pour les personnages, et en particulier pour le personnage de Captain America, de faire retour sur lui-même, d'entrer en introspection. On le voit très souvent au moment où, le soir, ils déposent leur moto et font un feu de camp, en train de réfléchir, sans doute de douter sur justement le mode de vie hippie, sur sa faisabilité, sur sa capacité à s'imposer au sein de la société américaine. Donc c'est véritablement un voyage existentiel. Et ce qui est intéressant, j'en dirai pas plus sur cette scène, mais c'est vrai que on voit aussi ce qui est le principe figuratif de base, je dirais, du road movie, qui est évidemment le travelling latéral. C'est-à-dire, on va suivre ces motards en train de traverser ces paysages, et ensuite ces paysages eux-mêmes vont être montrés très longuement, de manière assez contemplative, sous le soleil couchant, pour en révéler la beauté. Donc il y a quelque chose de mythique. On est encore, je dirais, dans une sorte de célébration de la beauté des paysages de l'Ouest américain, mais cette beauté, cette célébration va rapidement, dans la suite du film, laisser place justement à une découverte de la réalité beaucoup moins reluisante qui se cache derrière cette mythologie américaine, et en particulier de la violence qui lui est sous-jacente.
Alors, ce qui est mythique aussi, peut-être encore plus maintenant quand on revoit le film, et surtout qu'on l'écoute, comme dans cette émission, Mathieu Orléans, ce sont ces chansons qui viennent régulièrement. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 360 000, 400 000 dollars de budget, mais une fois qu'on met les chansons, ça coûte écoute évidemment beaucoup plus, parce que ce qu'on entend, c'était la bande son de l'époque, et c'est le premier film, il me semble, à utiliser à ce point, non pas une musique qu'on va commander à un musicien ou à un groupe, mais voilà, les disques qu'on écoute au moment même où on fait le film.
Oui, exactement. Et c'est une bande son qui va rester presque aussi mythique que le film pour certaines personnes qui ne l'auraient pas vu. Elle existe presque à part entière, quoi. Il y a une sorte d'autonomie comme ça de la musique qui est effectivement une première dans le cinéma, mais qui va accompagner Dennis Hopper tout le long de sa carrière. Et ça, ça montre le côté très polyvalent de Dennis Hopper. On a parlé de photos tout à l'heure, de peinture, de son goût pour l'art en général, pour l'art de la contre-culture de cette époque. La musique fait partie aussi de ce paysage-là et on la retrouve dans les films. Elle est un des personnages principaux des films à chaque fois, oui.
Et puis, un des personnages principaux des films de cette époque, ce sont aussi les chefs opérateurs. Il ne faut pas les oublier parce que si ces images restent, c'est parce qu'il y a des grands chefs opérateurs derrière. Et alors, de manière très étonnante, les grands films du nouvel Hollywood de l'époque, la photographie est signée par deux Hongrois, réfugiés aux États-Unis après 1956, qu'ils avaient fui la Hongrie. C'est Vilmos Zsigmond et, pour Easy Rider, Laszlo Kovács. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent, eux, au cinéma américain, et ce qu'on voit notamment dans Easy Rider, Baptiste Villeneuve?
Je dirais qu'ils apportent une approche nouvelle justement de la photographie, c'est-à-dire que ils ont été dans leur jeunesse au contact des premiers balbutiements, je dirais, en Europe d'un jeune cinéma européen. Ils ont Vilmos Zsigmond et Laszlo Kovács ont tous les deux tourné des images, par exemple au moment de l'insurrection de Budapest en 1956. Ils ont ensuite migré aux États-Unis et ont travaillé pour Roger Corman, justement pour AIP, sur des films à très petit budget. Et ce qu'ils vont apporter, je dirais, c'est une façon de faire des images beaucoup plus spontanées, une sorte de fraîcheur, une sorte d'immédiateté, de prix sur le vif, par l'utilisation du cadre, par l'utilisation du zoom en particulier, du zoom avant, du zoom arrière, allié à des mouvements panoramiques, par exemple. Qui va donner à l'image du nouvel Hollywood une sorte de fraîcheur, c'est-à-dire que cette image est beaucoup moins léchée, beaucoup moins calculée, beaucoup moins maîtrisée et d'une certaine manière beaucoup moins professionnelle que celle du cinéma hollywoodien classique antérieur, mais elle résonne davantage avec les préoccupations des contemporains qui voient sans cesse, par exemple à la télévision, des images de guerre prises au Vietnam, des reportages en direct, donc des images qui montrent de manière frontale la violence, pas toujours bien cadrée, mais qui créent sur les contemporains ce qu'on pourrait appeler des effets de réel, c'est-à-dire qui renforcent le réalisme en fait de ces scènes. Et donc je pense qu'ils apportent ça, et ça c'est particulièrement visible justement dans la scène que Mathieu évoquait tout à l'heure, donc la scène de carnaval qui a été tournée justement en 16 mm alors que le reste du film était en 35 mm.
C'est pas encore Laszlo Kovács d'ailleurs qui filme à ce moment-là. Le chef opérateur de ce moment a été viré par oui. Dennis Hopper assez rapidement.
Tout à fait, mais en tout cas ça c'est très visible, et c'est vrai que cette séquence est très marquante en deux temps vraiment, avec d'abord des images justement du carnaval, du Mardi Gras, qui ont un côté extrêmement naturaliste, très spontané, et ensuite une séquence quasiment expérimentale avec ce qu'on pourrait appeler un montage collage qui est très fortement influencé, me semble-t-il, justement par Bruce Conner, que Dennis Hopper connaissait très bien. Il fréquentait les mêmes cercles artistiques d'avant-garde de la côte ouest. Et effectivement, voilà, on retrouve ça. Mais en tout cas, oui, je pense que ces chefs opérateurs, au même titre que d'autres comme Gordon Willis, ont apporté beaucoup à l'imagerie et au type d'image qui sera caractéristique du nouvel Hollywood, avec son grain, avec sa spontanéité, sa fraîcheur, qui peut rappeler d'une certaine manière aussi la nouvelle vague française ou le free cinéma britannique.
Mathieu Lyon.
Oui, je voulais juste dire que cette spontanéité, on la retrouve aussi par l'utilisation au milieu d'acteurs professionnels ou de danseurs, de performeurs, mais par effectivement des acteurs non professionnels qu'on voit dans des scènes qui ont cet impact un peu documentaire, en particulier par exemple ces rednecks, les scènes dans les cafés, les jeunes filles, les jeunes femmes, où Dennis Hopper voulait vraiment pas que ce soit des acteurs studio qui viennent tout d'un coup au milieu de cette Amérique un peu oubliée jouer une scène où la pas surjoué ou je ne sais quoi, et qu'il y avait cette part de trouble qu'il avait envie d'aller chercher du côté d'acteurs de personnages qui n'étaient pas des acteurs et de corps qu'on n'avait jamais vus, et donc il avait créé comme ça des dispositifs pour que ces gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de la caméra soient plutôt à l'aise en leur inventant une histoire, en leur mentant parfois même sur ce qui était en train de se passer, pour leur donner la capacité d'exprimer leurs émotions sans filtre, parce que c'est des gens qui ont absolument pas de méthode, pas de des acteurs non professionnels, des gens qu'on vient comme ça repérer au moment où le film lui-même avance vers l'est. Bah il fallait tout d'un coup faire avec ce qui était trouvé sur la route, quoi. Et ça aussi c'est important, je pense, et ça donne cette couleur ou cette teinte au film très particulière.
Acteur non professionnel, il y a un acteur professionnel, un personnage très important de cette aventure dont on n'a pas encore parlé.
Tu sais, c'était vraiment un merveilleux pays autrefois. Je comprends pas du tout ce qui a pu se passer.
Je cherche pas tout le monde à la trouille, voilà ce qui se passe. On peut même pas entrer dans des hôtels minables, même pas dans un pauvre motel, tu sais. Tous ces mecs, on le traque, qu'on leur coupe la gorge, ils sont tous paniqués.
Non, c'est pas de vous qu'ils ont peur. C'est de ce que tout ça représente pour eux.
Tu sais, tout ce qu'on représente pour eux, c'est des types qui ont besoin d'aller chez le coiffeur.
Oh non. Non, ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté.
Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté? Il n'y a que ça qui compte.
Ah mais oui, c'est vrai, ça, je suis bien de ton avis, il n'y a que ça qui compte. Mais en parler, être libre, c'est deux choses différentes. C'est très très dur d'être libre, quoi, moi, quand on est un produit acheté et revendu au marché. N'essaie jamais de leur apprendre qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils vont immédiatement se mettre à assassiner pour te prouver seulement qu'ils savent ce que c'est, alors. Alors, ils te font des grands discours dans lesquels ils te parleront de la liberté individuelle. Seulement, s'ils rencontrent un type qui est vraiment libre, ça leur fout la trouille.
Non, alors, faut pas leur foutre la trouille.
Non. Non, parce qu'ils deviennent dangereux.
Nick, 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 nick.
Swamp.
T'as raison.
Swamp.
Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le cinéma. Cinquième épisode, Easy Rider avec Mathieu Orléans et Baptiste Villeneuve. Celui qui tient ses propos sur la liberté, c'est un avocat texan, rejeton d'une riche famille du coin et engagé dans la lutte pour les droits civiques, rencontré au hasard d'un passage en prison pour avoir participé sans autorisation à un défilé de majorettes. Et celui qui l'interprète, derrière la voix très reconnaissable de Michel Roux, qu'on associe plus souvent à Tony Curtis ou Peter Sellers, dont il était le doubleur officiel en France. Derrière cette voix, c'est Jack Nicholson, le troisième larron de ce film, dont on n'a pas encore parlé. Un Jack Nicholson qui essayait de percer dans le cinéma depuis une dizaine d'années, même si les aficionados du cinéma d'exploitation l'avaient déjà repéré dans les productions Roger Corman, encore lui, mais qui devient, Mathieu Orléans, véritablement une star avec ce film.
Oui, on oublie aujourd'hui parce qu'effectivement, pour tout le monde, entre Le Dernier Nabab, Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou, évidemment, Jack Nicholson, on a cette image de star, on a oublié qu'il avait été, comme tout le monde, un acteur pas forcément très connu au départ. C'est vrai qu'à l'époque du film, donc, d'Easy Rider, il a déjà tourné pour certains cinéphiles des rôles mémorables chez Monty Hellman, par exemple, et aussi chez Roger Corman. Et c'est quelqu'un qui n'est pas qu'acteur aussi. C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il est aussi scénariste, producteur.
C'est lui qui a écrit le scénario de The Trip, dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure.
Exactement. Donc c'est quelqu'un qui a un investissement dans le cinéma, qui est un petit peu tout terrain, qui n'est pas uniquement devant la caméra, mais aussi derrière. Un travail d'écriture, un travail de production, un travail de promotion d'un cinéma qu'il aime, qu'il désire, qu'il aimerait transformer. On sent qu'il y a quelque chose en lui, un peu comme le personnage de l'avocat, qui est un homme de conviction, quoi, et un homme qui veut faire évoluer le monde et changer les choses. Et c'est un personnage extrêmement important dans le film, parce qu'effectivement, il verbalise à plusieurs endroits, ce que les deux personnages principaux, Wyatt et Billy, ne sont pas capables peut-être de formuler. Il est à la fois un peu leur miroir, il est à la fois une forme plus civilisée, plus articulée, plus intellectualisée de ce que sont les deux personnages. Il va effectivement leur apprendre un petit peu qui ils sont à travers ces moments partagés de paroles au coin du feu ou sur la moto, et c'est donc un personnage extrêmement important, sacrifié, qui va être tué et qui annonce quelque part l'explosion, la fin du film, la fin tragique du film. Mais je pense que évidemment pour le spectateur, c'est peut-être pas ce dont on se souvient le plus, mais c'est un des centres de gravité importants du film, et donc en ça c'est un personnage clé du film, avec ce que Nicholson amène toujours, une dimension d'étrangeté, une dimension humoristique aussi, qui en fait vraiment le troisième pilier de Easy Rider.
Oui, parce qu'il y a toute une légende aussi autour du tournage du film, et c'est toujours très difficile de croire ce que les gens en racontent. Dans l'entretien qu'il vous accorde, Mathieu Orléans, dans le catalogue, Dennis Hopper dit « mais pas du tout, nous n'étions pas drogués sur ce film ». La fameuse séquence du délire du personnage de Jack Nicholson sur les Vénusiens, théorie du complot hallucinante avant l'heure, était totalement écrite à la ligne près. Il y a quand même cette légende du tournage d'Easy Rider, Baptiste Villeneuve.
Oui, absolument. On ne sait pas véritablement quelle est la part de la légende, quelle est la part de la réalité. Certains disent que Jack Nicholson en particulier avait fumé des joints toute la journée au moment du tournage de cette scène. Bon, on ne pourra jamais vérifier. Alors, on ne sait pas trop. Après, au-delà de l'anecdotique, je dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est ce dialogue qui a été écrit très certainement en grande partie par le co-scénariste du film, Terry Southern.
Le scénariste du Docteur Follamour. Hein,
voilà, qu'il faut mentionner parce que c'est un dialogue vraiment important. C'est un moment où on réfléchit finalement à l'enjeu principal du film, qui est la question de la liberté, de la recherche d'une liberté absolue, d'une indépendance absolue que permet précisément la moto, que permet ce symbole en fait de liberté qu'est la moto. Et en fait, le film, il est vraiment, je trouve, structuré par une sorte de dialectique ou d'opposition précisément entre la liberté absolue qui est recherchée et puis une sorte de fatalité tragique qui est présente dès le départ. On a l'impression dès le départ, et ça s'accentue vers la fin du film, que tout est joué d'avance, que le film s'oriente de manière presque téléologique vers sa fin, c'est-à-dire vers la mort tragique de ces deux motards qui vont être abattus par un redneck.
Notamment par l'utilisation assez étonnante de plans qui s'insèrent comme ça, comme des flash forward.
Tout à fait. Alors il y a deux types de plans qui sont vraiment intéressants dans le film, c'est-à-dire la transition en termes de montage entre certaines scènes se fait par une sorte de clignotement qui peut faire penser aussi à une forme de flash forward. C'est-à-dire qu'on a une alternance très rapide entre des plans de la première scène et de la scène qui suit, qui donne l'impression d'un côté très mécanique, comme si tout était déjà joué d'avance, comme si on se dirigeait vers une fin qui était déjà prévue. Et puis on a évidemment ce flash, il y a un flash forward très important vers la fin du film, lorsque les deux personnages principaux atteignent le bordel de Madame Tinkertoy à la Nouvelle-Orléans, que George Hanson, donc cet avocat progressiste incarné par Jack Nicholson, leur a conseillé. Et au milieu du décor baroque en fait de ce bordel, il y a des phrases qui sont écrites, enfin des phrases importantes, et notamment une phrase qui est une sorte de memento mori qui dit la réputation, bonne ou mauvaise, on ne peut la découvrir qu'à la mort d'une personne. Et à cet instant-là, lorsque Peter Fonda découvre cette citation, apparaît dans sa tête un flash forward, donc c'est-à-dire l'inverse d'un flashback, c'est-à-dire des images de l'explosion finale de sa moto qui conduit évidemment à sa mort. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de la prémonition de ce destin tragique. Et en fait, tout le film est structuré, je dirais, par une sorte d'indissociabilité entre Eros et Thanatos, entre tout ce qui est lié au côté festif, jubilatoire de la contre-culture, et en même temps quelque chose de sombre, quelque chose de tragique. On le voit notamment dans la fameuse scène au cimetière, où le good trip est sans cesse contrebalancé par un bad trip. Il y a des épisodes euphoriques et d'autres dysphoriques. Et donc, voilà, sans cesse, l'expérience religieuse mystique est sans cesse mêlée également à l'expérience sexuelle. Voilà, donc il y a un lien très étroit entre Eros et Thanatos qui parcourt tout le film, entre le côté jubilatoire de la contre-culture et sa fin en quelque sorte programmée, le désenchantement programmé.
Et tout ça est rassemblé dans une séquence aussi à la fin du film.
France Culture, les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Ça y est, ça y est. Nous sommes riches, regarde. Allez, vieux. Ouais. Ah, on y est arrivé, c'est pas trop tôt. On y est arrivé. On est riche, vieux. On va se retirer en Floride maintenant.
Ah. Ah, tu sais, Billy, on s'est paumé.
Quoi? Non, voyons, c'est fait, vieux, cette fois-ci. C'est vrai, on a palpé un beau paquet, on est libre. Tu y es? Hein?
On s'est paumé. Bonne nuit, Billy.
La version française de l'époque, il faut bien le dire, édulcore largement la réplique si commentée depuis plus de 50 ans, réplique de Wyatt, Captain America, Peter Fonda à la fin d'Easy Rider. On s'est paumé en VO, c'est We Blew It, qu'on traduirait plutôt aujourd'hui par On a foiré ou On a tout foutu en l'air. C'est une réplique énigmatique à l'époque, mais qu'on comprend évidemment différemment aujourd'hui avec le recul historique jusqu'à ce que ce We Blew It devienne le titre du film de Jean-Baptiste Torré, grand spécialiste du nouvel Hollywood, ce film qui interrogeait en 2017 l'Amérique où comment on était passé l'esprit contestataire des années 60 à l'élection de Donald Trump, que le film documentait en direct. C'est le paradoxe d'Easy Rider, Mathieu Orléans, à l'époque, c'est un film culte, un film qui a un immense succès, il est vécu comme l'emblème de la contre-culture, et aujourd'hui on le lit plutôt comme annonciateur de sa fin.
Il y a cette tension dans le film tout le temps, qu'incarne un petit peu les deux personnages à leur façon. C'est vrai que peut-être qu'Henry Peter Fonda, il est plus dans une forme, je dirais, de jouissance, le rapport à son corps, le rapport à quelque part au revers d'une Amérique triomphante, mais qui reste d'un côté assez solaire. Et c'est vrai que peut-être que le personnage de Dennis Hopper incarne plus déjà quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus traumatisé. C'est vrai qu'on a souvent un petit peu opposé les deux personnages, c'est pas totalement fou. Après, je l'ai revu récemment et je trouvais que c'était aussi un petit peu caricatural que de les opposer à ce point, et qu'il y avait plutôt des convergences, qu'ils étaient plutôt les deux facettes d'une sorte de même pièce, plutôt que de vraiment deux visions différentes, une vision qui serait utopique et une dystopique de ce mouvement hippie. C'est vrai qu'ils accompagnent tous les deux quelque chose qui se termine mal, mais qui rend quand même hommage, effectivement, cette très belle scène qui se passe encore en Californie, la scène de la communauté hippie, et une scène qui donne la place dans un film à des gens qui ont encore été très peu filmés dans des cinémas de fiction. Et c'est une scène qui est assez longue, qui se déploie dans le temps, dans lequel Dennis Hopper a fait venir un certain nombre de ses amis, d'artistes de la scène de Los Angeles de l'époque, comme Wallace Berman, qui était un des précurseurs du Mail Art, et qui est quelqu'un qui avait regroupé autour de lui d'une revue qui s'appelait Semina Culture un certain nombre d'artistes. C'est aussi donc un moyen de rendre hommage à tout ce qui se passait en Californie, pas simplement d'un côté purement hédoniste, mais aussi culturellement très inventif, du côté du théâtre, du côté de la performance, du côté du cinéma expérimental, du côté de la danse, du côté de la presse libre. Et on retrouve, par les acteurs qui sont présents, ou pas forcément acteurs, mais qui jouent des personnages et qui sont des artistes, ou par certains détails de la mise en scène, ou d'objets qu'on peut trouver dans cette scène, un écho à une histoire de Los Angeles qui, pour le coup, va pas se terminer avec le mouvement hippie, qui va perdurer, qui va prendre d'autres formes, qui va se métamorphoser. Il y a plutôt une dimension de phénix, quoi, de renaissance. Je dirais que même si les personnages en meurent à la fin, le film y contient aussi la possibilité que quelque chose renaisse autrement. Et c'est vrai que tout ça n'a pas disparu pour ne donner naissance à rien. Au contraire, ça a quand même engendré un certain nombre de belles choses. Il s'en moque un petit peu. Ce théâtre s'appelle Gorilla Théâtre à l'intérieur de la communauté. Évidemment, ça fait allusion plutôt à ce qu'on appelait le guérilla théâtre à l'époque, d'un théâtre engagé, anarchiste, qui était beaucoup présent dans des petites salles à San Francisco. Enfin, en tout cas, tout ça se trouve catalysé d'une manière qui est effectivement un peu paradoxale, mais qui n'est pas uniquement tragique, je pense.
Alors, vous le comprenez comment, vous, Baptiste Villeneuve, ce We Blew It, on a tout foutu en l'air. Parce qu'il faut quand même se méfier des lectures téléologiques, justement, et de faire dire un film plus qu'il ne voulait en dire. Enfin, les films disent toujours plus que ce qu'ils veulent en dire, évidemment.
Oui, absolument. Bon, déjà, au sein même de l'intrigue, c'est une phrase qui prend place juste après la mort de George Johnson. Donc effectivement, on peut voir une référence à cela, tout simplement. Mais évidemment, et là-dessus, je trouve l'interprétation de Jean-Baptiste Thoré vraiment très intéressante. Le film est tourné en 1968, c'est-à-dire à peine un an après le Summer of Love, après l'apogée, je dirais, du mouvement de contre-culture hippie, avec l'espoir d'une société progressiste sur tous les plans, hein, aussi bien sur le plan de la libération sexuelle que des droits civiques aux minorités, la lutte contre la guerre du Vietnam, etc. Et on sait maintenant, après coup, rétrospectivement, donc effectivement c'est une lecture qui peut paraître biaisée, mais on sait qu'en 1969, justement, c'est-à-dire au moment où sort le film, dans les mois qui suivent la sortie du film, il va y avoir un retournement de l'image, je dirais, des communautés hippies auprès du grand public américain. Notamment en raison de plusieurs événements, évidemment l'assassinat de Sharon Tate sur Cielo Drive par des membres de la famille Manson, c'est-à-dire qu'on voit qu'un certain nombre de communautés, alors sans doute pas représentatives de toutes les communautés hippies, deviennent des sociétés en quelque sorte menées par un gourou, etc.
C'est-à-dire que l'assassin, ce n'est plus le redneck, c'est le hippie.
Voilà, tout à fait. Donc il y a un côté sombre, un côté presque noir du hippie de plus en plus. Il y a effectivement aussi cet événement, donc lors du concert des Rolling Stones à Altamont Speedway à la fin de l'année 1969, où un jeune africain-américain, Meredith Hunter, est assassiné dans le public devant les yeux des Rolling Stones, dans une fête qui au départ devait être jubilatoire et qui finalement, sous l'effet de l'alcool et de la consommation de drogue, a viré en quelque chose de totalement incontrôlable. Et il me semble quand même qu'effectivement il y a quelque chose qui est pressenti par ce personnage et par ceux qui ont écrit ce personnage. Moi, il me semble que c'est assez assez pertinent, parce que par exemple dans la scène de la communauté hippie, alors on a des moments qui sont vraiment extrêmement beaux, justement quand ils se baignent dans cette sorte de piscine naturelle, etc. Mais il y a aussi une manière de montrer cette communauté qui n'est pas du tout idéalisée. C'est-à-dire, on a notamment ce plan très célèbre, une sorte de panoramique circulaire où on va voir tour à tour tous les membres de cette communauté hippie qui sont en train, en quelque sorte, de faire une prière païenne pour invoquer les dieux de la nature afin qu'ils puissent faire pousser leur récolte et donc qu'ils puissent s'autosuffire en termes alimentaires. Et donc on voit bien, on les voit dans la scène qui précède, en train de semer des graines sur un sol aride, où il ne pleut jamais. Et donc le personnage de l'autostoppeur dit, évidemment ils sont arrivés pendant l'été, tout allait bien, et puis l'hiver est arrivé, ils se sont rendus compte des... Et donc je trouve que finalement cette communauté hippie n'est pas du tout idéalisée, elle me fait beaucoup penser, moi, personnellement, par exemple, exemple à des images qu'on peut avoir en tête du film Les raisins de la colère de John Ford en 1940, avec justement comme acteur principal Henry Fonda, le père de Peter Fonda. Et je trouve que la manière dont sont filmés ces personnages rappelle aussi beaucoup des photos en noir et blanc de la Grande Dépression prises par Wiggy et Dorothée Allange par exemple. Et donc il y a une manière de montrer qu'à la fois c'est un très bel idéal, mais que cet idéal se heurte à un certain nombre de réalités. Ce sont des jeunes de la ville qui ne savent pas forcément comment cultiver, comment s'y prendre pour cultiver la terre, et également qui vont par la suite être confrontés, je dirais, à l'Amérique profonde, conservatrice, bigote, avec ses rednecks qu'ils rencontrent, notamment dans ce diner en Louisiane. Et qui, voilà.
Mathieu Orléans, Denis Hopper, toute sa vie sera marquée par Easy Rider. Tous ces personnages seront marqués par ce film d'une certaine façon.
Oui et non, je dirais que il a réussi quand même à s'émanciper, à créer, en tout cas comme acteur et comme réalisateur, à prendre aussi des chemins un petit peu différents. Ça a été un film qui a été un énorme succès, qui a pas coûté grand-chose, on l'a dit, qui a rapporté beaucoup d'argent. Le film dans lequel il se lance après, The Last Movie, va être un vrai échec à tout point de vue, remonté, retravaillé, mal distribué par Universal, va provoquer véritablement sa chute, même si c'est pour beaucoup peut-être son chef-d'œuvre, enfin un film où il s'exprime encore plus librement, mais c'est un film qui va avoir du mal à le repositionner comme cinéaste après coup, ça c'est vrai. Il fera quand même au moins 4-5 films après, et comme acteur, là aussi, c'est peut-être là, Easy Rider est peut-être plus matriciel comme film, on va retrouver dans son jeu, sur certains personnages, quelque chose qui vient de là, mais qui va, avec la maturité aussi, prendre de nouvelles formes. Il y a une période des années 70 où il tourne pas beaucoup, et puis il va redevenir un acteur absolument éminent et extrêmement présent, parfois dans des seconds rôles, mais dans les années 80, en particulier le film de David Lynch, Blue Velvet, mais aussi Peckinpah, mais aussi Abel Ferrara. Donc il va croiser sur sa route beaucoup de cinéastes avec lesquels il va apporter quelque chose, certainement toute son histoire, et ces cinéastes qui sont plus jeunes que lui, évidemment, le prennent pour ce qu'il représente. On a parlé beaucoup de la liberté, on a parlé d'un destin hors du commun qui vont évidemment explorer avec ces personnages. Mais c'est vrai que il va aller, à mon avis, encore plus loin, quoi, avec ces cinéastes-là, sur ce motif de la folie, le côté obscur de l'Amérique. Il est, à mon sens, avec son personnage, il est un petit peu esquissé dans Easy Rider, mais il va vraiment s'exprimer des années plus tard et prendre une forme encore plus terrifiante, une forme plus inquiétante. Et ça, c'est le talent à la fois de l'acteur, de sa maturité. Il faut dire qu'il a été reclus pendant beaucoup d'années. Il tournait pas, ni comme acteur, ni comme réalisateur. Donc je pense qu'il a pu emmagasiner une sorte d'énergie qui va se retrouver dans ses films, et puis aussi du fait de ces cinéastes qui vont voir en lui quelque chose, je l'avais dit peut-être sur des cinéastes expérimentaux des années 60, il va retrouver des alter ego avec tous ces cinéastes des années 80, 90, quoi.
It flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road.
Merci Mathieu Orléans et Baptiste Villeneuve. On se quitte sur la ballade d'Easy Rider de Robert McGinn, seule chanson originale, il me semble, composée pour le film. Easy Rider est édité en DVD et Blu-ray par Columbia TriStar Video, avec un passionnant commentaire audio qu'on peut peut-être parfois remettre en question, de Denis Hopper lui-même. Et pour en savoir plus, le Nouvel Hollywood 1967-1980, une réinvention du point de vue de Baptiste Villeneuve, c'est au presse universitaire de Rennes quant au catalogue de l'exposition magnifique Dennis Hopper et le nouvel Hollywood. Il est toujours disponible. C'est une coédition Flammarion Skira, la Cinémathèque française. À la prise de son aujourd'hui, Manon Houssin. Cette émission était préparée par Marceau Vassy et réalisée par Vivian Lecuivre.
To the sea.